Chapitre 6. Quand Nicole ouvrit les yeux, Richard était assis près d'elle et lui tendait une tasse de café. « Tu voulais te lever à 7 heures ?» lui rappela-t-il. Elle se redressa et prit la tasse. « Merci, mon chéri. Mais Link aurait pu s'en charger. Je souhaitais te parler de ce qui vient de se produire dans la plaine centrale. » Elle but une gorgée avant de demander « De quoi s'agit-il ? » On a signalé 2 nouveaux incidents cette nuit, ce qui porte leur nombre à 12 en moins d'une semaine. Nos forces défensives ont détruit 3 faucheux qui harcelaient les ingénieurs.
Des assaillants ont-ils riposté ?
Non. Ils ont dégarpi dès les premières détonations, comme avant-hier.
Et tu penses toujours que ce sont des observateurs, au même titre que les araignées biotes de Rama 1 et 2 ?
Il hocha la tête. Pense à l'image que nous donnons de nous lorsque nous ouvrons le feu sans provocation. Nous réagissons avec hostilité à ce qui n'est certainement qu'une tentative de prise de contact.
Cela me révolte. Mais que pourrions-nous faire ? Le Sénat a autorisé les équipes d'exploration à se servir de leurs armes.
Richard allait répondre quand il remarqua Benji sur le seuil de leur chambre.
« Je peux entrer ?»«
Mais bien sûr, »
fit Nicole en écartant les bras.
« Joyeux anniversaire, mon chéri. »«
Joyeux anniversaire, » dit à son tour Richard, pendant que Benji, désormais plus grand que lui, grimpait sur le lit pour étreindre sa mère.
« Merci, oncle Richard. Dis, maman, on va aller pique-niquer dans la forêt de Sherwood ?»«
Naturellement. Et ce soir, nous organiserons une fête. »«
Chouette !»
Comme tous les samedis, Patrick et Ali faisaient la grasse matinée. Link servit le petit déjeuner à Richard, à Nicole et à Benji. Les adultes suivirent les informations à la télévision et virent une vidéo de l'attaque des faucheux au pied de la muraille du second habitat. Il y eut ensuite les commentaires des 2 candidats au poste de gouverneur.
« Je réclame un renforcement de nos dispositifs de défense depuis des semaines », rappela Ian Macmillan. « Nous avons finalement commencé à améliorer notre armement, mais ces mesures sont insuffisantes. »
Le journal s'achevait par une interview de la responsable des services météorologiques, une femme qui expliqua que la sécheresse et les vents violents était due à une erreur de modélisation au niveau des simulations informatiques.
Nous avons tenté en vain de provoquer des chutes de pluie, et comme voici le week-end, nous avons naturellement programmé du soleil. Mais nous vous promettons des averses pour la semaine prochaine.
Ils ne savent pas ce qu'ils font, grommela Richard en coupant la télévision.
Ils sèment le chaos.
Le chaos ?
Fit Benji.
La plus simple des définitions est l'absence d'ordre, répondit Richard après une brève hésitation. Mais en mathématiques, le sens est plus précis. On emploie ce terme pour décrire des réactions disproportionnées à de légères perturbations.
Il rit.
Pardonne-moi, Benji. J'utilise à nouveau le charabia des scientifiques.
Benji sourit.
J'aime quand tu me parles comme si j'étais normal. Parfois, j'arrive même à comprendre.
Link débarrassait la table et Nicole était visiblement préoccupée. Quand Benji alla se laver les dents, elle se pencha vers son mari.
As-tu parlé à Cathy ? Je n'ai pu la joindre au vidéophone, ni hier après-midi, ni cette nuit.
Richard secoua la tête.
Benji sera déçu si elle ne vient pas à son anniversaire. Je vais envoyer Patrick la chercher.
Richard se leva et vint prendre les mains de sa femme dans les siennes.
Et toi, as-tu prévu un moment de détente dans ton emploi du temps ?
C'est le week-end, après tout. Je dois passer au centre hospitalier pour participer à la formation de 2 assistants et faire un saut au tribunal pour lire les conclusions se rapportant à une affaire qui sera jugée lundi. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Kenji à 14h30 et mon cours de pathologie aura lieu à 15h. Je rentrerai à la maison sitôt après.
ce qui te laissera à peine le temps de tout préparer pour l'anniversaire de Benji.
Tu devrais adopter un rythme moins frénétique. Tu n'es pas une biote.
Tu peux parler, fit-elle en l'embrassant.
Il t'arrive de faire le tour du cadran quand tu travailles sur un projet qui te tient à cœur.
Et tout ceci est très important. Nous sommes à un tournant de l'histoire et mon rôle n'est pas négligeable.
C'est certain, mais tu ne t'accordes jamais une minute de répit.
C'est un luxe que je m'offrirai quand je serai vieille,
dit-elle en se rendant dans la chambre de Patrick. Ils sortirent du sous-bois et les lapins et les écureuils s'égayèrent. De l'autre côté de la prairie, un jeune cerf tourna la tête vers eux avant de bondir avec grâce en direction de la forêt. Nicole consulta la carte.
Il y a une aire de pique-nique non loin d'ici.
Benji s'était agenouillé devant des fleurs jaunes envahies par des abeilles.
Miel, dit-il en souriant. Les abeilles font du miel.
Ils trouvèrent les tables et étalèrent une nappe sur l'une d'elles. Link leur avait préparé des sandwichs et des fruits des vergers de San Miguel. Pendant qu'ils déjeunaient, une autre famille arriva. Benji agita la main pour saluer les nouveaux venus.
Ils ne savent pas que c'est mon anniversaire.
L'important, c'est que nous le sachions,
dit Ali, en levant son gobelet de limonade.
À ta santé, mon frère.
Ils terminaient leur repas quand un petit nuage ternit les couleurs de la prairie.
Il est bien sombre,
commenta Nicole. Mais un instant plus tard, l'herbe et les fleurs retrouvaient leur éclat.
Tu veux ton pudding tout de suite ou tu préfères attendre?
Demanda Nicole à son fils.
On va jouer avant. Viens, Ali,
dit-il en jetant un gant de baseball à sa sœur. Pendant qu'ils se lançaient la balle, Nicole ramassa les restes de leur déjeuner. Elle alla rejoindre ses enfants quand sa montre bracelet sonna. Elle enfonça le bouton de réception et l'image de Kenji Watanabe se superposa aux chiffres. Elle monta le volume pour écouter ce que le gouverneur avait à lui dire.
Je suis désolé de vous importuner, Nicole, mais c'est urgent. Une plainte pour viol a été déposée et la famille de la victime réclame une inculpation immédiate. L'affaire est délicate. Je vous communiquerai les détails de vive voix.
Je serai au tribunal dans une demi-heure,
promit-elle. Benji était déçu, mais Ali parvint à convaincre sa mère de les autoriser à rester dans la forêt 2 heures supplémentaires. En partant, Nicole lui remit la carte des lieux. Au même instant, un nuage encore plus menaçant leur dissimula le soleil artificiel du Nouvel Éden. Cathy n'était pas à son appartement. Où pouvait-elle être ? Patrick n'avait aucun ami à Vegas et ne savait par où commencer ses recherches. Il vidéophona à Max Puckett, qui lui fournit les noms, les adresses et les indicatifs téléphoniques de 3 de ses connaissances.
« Ce ne sont pas des filles que ta mère aimerait devoir épouser. Si tu saisis le fond de ma pensée, »
dit-il en riant.
« Mais elles ont le cœur sur la main et tu peux compter sur elles pour t'aider. »
Patrick avait rencontré Samantha Porter et elle habitait à quelques centaines de mètres de la cabine. Bien que ce fût le début de l'après-midi, Samantha était encore en robe de chambre lorsqu'elle vint finalement ouvrir la porte.
« Je t'ai reconnue sur le moniteur, »
dit-elle avec un sourire provocateur.
« Patrick O'Toole, c'est ça ?»«
Mademoiselle Porter, j'ai un problème. »
« Tu es bien trop jeune pour que ce soit irrémédiable, »
l'interrompit-elle avant de rire.
« Mais entre, nous serons plus à l'aise pour en parler. »
Il rougit.
« Ce n'est pas ce que vous pensez, madame. Je cherche ma sœur Cathy et j'ai pensé que... »«
C'est pour ça que t'es venue me voir ?»
fit-elle en secouant la tête.
« J'espérais que tu désirais autre chose. Ce qui m'aurait permis de révéler à mes amis si tu es ou non un Iti. »
Patrick restait sur le seuil, profondément gêné. Samantha haussa les épaules.
Je crois que ta sœur passe presque tout son temps au palais de Nakamura. Va au casino et demande chérie. Elle sait comment la joindre.
Oui, oui, monsieur Kobayashi. Wakarimasu,
disait Nicole au japonais présent dans son bureau.
Je comprends ce que vous éprouvez. Soyez certain que justice sera faite.
Elle l'escorta jusqu'à la salle d'attente, où il retrouva son épouse qui pleurait. Leur fille de 16 ans, Mariko, avait été admise au centre hospitalier du Nouvel Éden pour un examen médical. Mais bien qu'elle fût couverte d'ecchymose, son état n'était pas critique. Sitôt seule, Nicole appela le docteur Turner.
J'ai constaté la présence de sperme dans le vagin et de contusions sur tout le corps, dit le médecin. Elle est traumatisée et un viol n'est pas à écarter.
Nicole soupira. Selon Mariko Kobayashi, l'agresseur n'était autre que Pedro Martinez, le jeune homme avec qui Ali avait interprété En attendant Godot. Elle fit rouler sa chaise jusqu'à l'ordinateur et consulta son fichier.
Martinez Pedro Escobar, né le 26 mai 2228 à Managua, Nicaragua. Mère, Maria Escobar, célibataire, sans emploi fixe. Père présumé, Ramon Martinez, docker noir d'Haïti. 6 demi-frères et sœurs, tous plus jeunes. Condamnation. Vente de Kokomo en 2241 et 2242. Viol en 2243. 8 mois dans la maison de correction de Managua. Prisonnier modèle. Transfert à Mexico en 2244. IE de 86. SC de 52.
Nicole relut les antécédents de Pedro avant de le faire entrer dans son bureau. Elle lui dit de s'asseoir et il baissa la tête. Un Lincoln qui s'était retiré dans un angle de la pièce se chargerait d'enregistrer l'interrogatoire.
« Pedro, »
fit-elle doucement. Aucune réaction. Il ne releva même pas la tête.
« Pedro Martinez, êtes-vous conscient de la gravité de l'accusation que Mariko Kobayashi a portée contre vous ? Qu'avez-vous à répondre ? »
Il resta muet. Les lois du Nouvel Éden et du Nicaragua sont peut-être différentes, ajouta Nicole.
Ici, tout suspect est présumé innocent tant qu'un juge n'a pas examiné les éléments de preuve et estimé qu'une inculpation était justifiée. C'est pour cela que je veux connaître votre version des faits.
Après un long silence, le jeune homme marmonna des propos incompréhensibles.
Pourriez-vous répéter ?
Marie comment ? Je ne sais pas pourquoi, mais elle dit pas la vérité.
Que s'est-il passé ?
À quoi bon ? Personne ne me croira.
Écoutez-moi, Pedro. Si votre culpabilité ne me paraît pas évidente, je prononcerai un non-lieu. Naturellement, comme l'accusation est très grave, nous effectuerons une enquête approfondie.
Il releva la tête et la fixa droit dans les yeux.
Madame le juge, j'ai couché avec Mariko, mais elle était consentante. C'est même elle qui a dit que ce serait plus amusant dans les bois.
Il s'interrompit et contempla à nouveau le sol.
C'était la première fois que vous aviez des rapports intimes avec elle ?
Non, la deuxième fois.
Avez-vous été violent ?
Il se mit à pleurer.
« Je l'ai pas frappé !»
s'exclama-t-il. À l'instant où un son étrange se faisait entendre dans le lointain, comme le claquement d'un fouet.
« Qu'est-ce que c'était ?»
se demanda Nicole à voix haute.
« On aurait dit le tonnerre !»
fit remarquer Pedro. Ce bruit fut également audible dans la suite luxueuse du palais où se trouvait Patrick. Sa sœur portait une robe d'intérieur coûteuse en soie bleue. Mais ils ne prêtèrent pas attention au grondement.
« Dois-je comprendre que tu n'as pas l'intention de venir à l'anniversaire de Benji ? Que vais-je dire à maman ?
Ce que tu veux ? »
lui répondit Cathy. Elle ouvrit un étui à cigarette et en glissa une entre ses lèvres.
« Raconte-lui que tu n'as pas pu me joindre !»
Elle utilisa un briquet en or, puis souffla la fumée en direction de son frère, qui agita la main.
« Allons, ça ne risque pas de te tuer. Pas dans l'immédiat, c'est exact. »
Elle se leva pour faire les 100 pas.
« Écoute, Patrick, Benji est un attardé mental. Nous n'avons jamais eu d'atome crochu, lui et moi. Il ne remarquera même pas mon absence si vous n'en parlez pas. »
« Tu te trompes, Cathy. Il est bien plus éveillé que tu le dis. Il demande souvent de tes nouvelles.
Ne me débite pas de conneries. Tu veux me donner mauvaise conscience, c'est tout. Inutile d'insister, j'irai pas. Ce serait différent s'il n'y avait que toi, Benji et Ali, bien qu'elle soit vraiment chiante depuis qu'elle a fait son beau discours. Mais tu connais maman. Elle ne me fiche pas la paix 5 minutes.
Parce qu'elle s'inquiète pour toi.
Bien sûr, Patrick,
fit Cathy en riant.
Elle craint que je la place dans l'embarras.
Il se leva pour partir.
Rien de presse? Non? Je vais enfiler quelque chose et nous descendrons au casino. Tu n'as pas oublié tous les bons moments qu'on a passés ensemble, au moins.
Elle se dirigea vers la chambre.
Tu te drogues?
Lui demanda-t-il brusquement. Elle s'arrêta et se tourna pour le fixer.
Qui veut le savoir? Toi? Ou madame la cosmonaute, docteur, gouverneur et juge Nicole Desjardins-Wakefield?
Moi,
répondit posément Patrick. Elle revint vers lui et referma ses mains sur ses joues.
Je suis ta sœur et j'ai pour toi énormément d'affection. Le reste n'a pas d'importance.
Les nuages noirs se regroupaient à l'aplomb des collines de la forêt de Sherwood, poussé par un vent de plus en plus violent. Il y eut un éclair et le craquement presque simultané du tonnerre. Benji recula et Ali l'attira contre elle.
D'après la carte, nous sommes à 1 kilomètre de l'orée des bois. C'est loin. En marchant d'un bon pas, nous l'atteindrons dans 10 minutes.
Elle le prit par la main et s'engagea sur le chemin. Un instant plus tard, la foudre s'abattit sur un arbre proche. Une grosse branche tomba et percuta le dos de Benji, qui fut assourdi et projeté tête la première dans les taillis. Il resta prostré sur le sol plusieurs secondes, sans comprendre ce qui lui était arrivé. Finalement, il se releva et vit sa sœur de l'autre côté du sentier, immobile et les yeux clos.
« Ali! Ali !»
hurla-t-il en se précipitant vers elle. Il la prit par les épaules et la secoua doucement. Elle ne rouvrit pas les paupières. Elle avait une grosse bosse comme une orange sur le front, à côté de l'œil droit.
« Qu'est-ce que je dois faire ?»
se demanda-t-il à voix haute. Il huma l'odeur du feu et releva la tête. Des flammes bondissaient de branche en branche, poussées par le vent. Il y eut un autre éclair, le tonnerre. Devant lui, des langues de feu couraient sur les côtés du sentier. La panique le saisit. Il prit sa sœur dans ses bras et tapota ses joues.
« Ali, s'il te plaît, réveille-toi !»
Elle ne bougeait pas. L'incendie se propageait rapidement autour d'eux. Bientôt, tout ce secteur de la forêt serait un épouvantable brasier. Terrifié, Benji voulut soulever sa sœur. Il perdit l'équilibre et tomba.
« Non ! Non ! »
hurla-t-il. Il se releva, puis la hissa sur ses épaules. La fumée le gênait. Il s'éloigna des flammes avec Ali sur son dos. Il était à bout de force quand il atteignit la prairie. Il allongea doucement sa sœur sur une des tables et s'assit sur un banc. Au nord, le feu se déchaînait.
Et maintenant ?
La carte dépassait d'une poche de la chemise d'Ali. Il la prit et la regarda, sans rien comprendre. La panique eut à nouveau raison de lui.
Détends-toi, Benji, lui eut dit sa mère. C'est difficile, mais tu peux le faire. Les plans nous indiquent où nous devons aller. En premier lieu, il faut tourner le papier de façon à pouvoir lire ce qui y est écrit.
Comme ça. Ce qu'on appelle le nord est représenté en haut. Tu as sous les yeux une carte de la forêt de Sherwood.
Il plaça les lettres dans le bon sens. La foudre s'abattait de toutes parts. Le vent changea de direction et chassa jusqu'à lui une épaisse fumée. En toussant, il tenta de déchiffrer les inscriptions. Et il entendit à nouveau la voix de sa mère.
« Si tu ne reconnais pas les mots, prononce lentement chaque lettre et les sons s'assembleront tout seuls. »
Il regarda Ali allongé sur la table.
« Réveille-toi, réveille-toi, je t'en supplie, j'ai besoin que tu m'aides. »
Comme elle ne réagissait pas, il se pencha vers la carte et se concentra. Avec difficulté, il lut à voix haute chaque lettre et finit par comprendre ce que représentait la tache verte.
« Les traits blancs doivent être les chemins, »
se dit-il.
« Il y en a trois qui traversent cette prairie. »
Il leva les yeux, constata qu'il avait vu juste et sentit croître en lui une certaine assurance. Quelques minutes plus tard, une bourrasque emportait des braises qui embrasèrent des arbres au sud de la clairière.
« Je dois repartir !»
pensa Benji, qui reprit Ali sur son dos. Il savait désormais que l'incendie principal faisait rage au nord, du côté d'Akone. Il consulta une fois de plus le plan.
« Je ne dois pas m'écarter des lignes blanches du bas de la carte. »
conclut-il. Il progressait péniblement quand un autre arbre explosa non loin de lui. Il gardait la feuille de papier dans la main droite et s'arrêtait pour la regarder tous les 10 pas. Quand il atteignit une intersection, il posa Ali sur le sol et suivit les traits clairs du bout du doigt. Une minute plus tard, il souriait, soulevait sa sœur et prenait le chemin de Positano. La foudre illumina le ciel, le tonnerre gronda et une pluie diluvienne s'abattit sur la forêt de Sherwood.